Ce soir, j'aimerais prendre la première vérité, la souffrance, mais plutôt que de la traiter en lien avec la cause de la souffrance qu'on a pas mal vu, cet attachement à l'expérience, plutôt que l'ouverture, elle lâche le laisser être. Quelle réponse donner à Dukkha? Quelle réponse est-ce que je donne lorsqu'il y a souffrance? Et pour savoir quelle réponse je donne, il faut déjà savoir ce que c'est que la souffrance. Ça n'est pas seulement la peine. C'est aussi cet attachement au moi. Donc il y a trois aspects à la souffrance. Il y a ce qui est douloureux au niveau physique, ça fait mal. Il y a la maladie ou bien dans l'assise, il y a ces douleurs corporelles qui viennent. Cette douleur physique que nous prenons vite personnellement. Je me souviens, John Sumedo, il y avait une femme qui lui partageait qu'elle avait un cancer, que c'était très dévastateur pour elle, qu'elle ne comprenait pas, qu'elle avait toujours tout bien fait. Et puis il l'a regardée avec beaucoup de bonté, puis il lui a dit, elle lui demandait, mais pourquoi, pourquoi? Puis il lui a dit, mais parce que vous êtes née. Lorsque nous naissons, la vie nous attend telle qu'elle est. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Et dans l'exercice de la méditation, souvent nous demandons, mais pourquoi ici, pourquoi là, pourquoi moi, pourquoi ça passe pas? C'est parce que je suis née. Et au fond, la seule chose intéressante, ça n'est pas pourquoi ou bien que ça disparaisse, mais c'est quelle réponse est-ce que je donne juste maintenant? Et la souffrance physique, elle est chez moi, mais elle est aussi chez l'autre. Quelle réponse est-ce que je donne à la souffrance physique chez l'autre? Et puis la souffrance psychique, nous répondons aux stimuli par des ressentis de peur, de colère. On a bien vu tout ça. On se sent perdu, on se sent abandonné. À la maladie ou à la douleur physique correspond une émergence psychique que nous pouvons observer. Et souvent au niveau mental, ce qui vient, c'est que nous nous lamentons, ou bien nous jugeons, nous nous décourageons, ou bien nous créons des pensées obsessionnelles. Nous nous révoltons. Et lorsque nous pratiquons la méditation, nous souffrons de la perte de conscience. C'est peut-être la plus grande souffrance. Nous perdons ce lien au qui suis-je, en profondeur. Nous perdons dans notre mental. Un monsieur Brown qui dit, quelle est la plus grande des peines? C'est me perdre moi-même et tomber dans la justification et le blâme. Y croire, c'est autre chose de le voir ou d'y croire. Si je le vois, je suis à moitié sauvée. Et en retraite, on peut voir qu'il y a deux pièges. C'est la routine. je veux parler de ça parce que c'est important, la routine où je commence à trouver un espèce de confort de la méditation. Je deviens un plom-plom de la méditation. Et puis je garde cette espèce de « tout va bien ». Et puis, la volonté d'atteindre, la performance. C'est jamais assez, j'ai toujours plus. C'est une souffrance psychique. Et le troisième aspect de la souffrance, c'est ces khandhas, ce que ces agrégats que nous pouvons voir, le contact. C'est merveilleux lorsqu'on peut juste nommer le contact parce qu'il y a un lâcher-prise du moi. Mais en général, le contact crée le ressenti qui crée la perception et qui crée les formations mentales. Et si nous n'avons pas suffisamment de présence d'esprit, de pleine conscience, nous ne voyons pas du tout comment ça se passe. Et hop, on y est déjà. Donc dans une retraite, c'est très précieux de pouvoir explorer ce troisième aspect de la souffrance, comment le moi se crée. Il faut qu'il y ait un contact, sinon il n'y a juste pas de moi. Il faut qu'il y ait une sensibilité. Il faut qu'on ait un bagage de pensées associatives pour pouvoir dire ce qui est là. Et lorsque nous avons développé la conscience, nous savons que cet aspect-là de l'expérience est ce qu'on pourrait dire, c'est la loi de cause à effet, c'est du karma. Il n'y a aucun moyen de faire que ça n'arrive pas. C'est comme ça, ça arrive. Je ne peux pas dire, dans l'assise prochaine, je vais lire ça. Nous ne pouvons pas contrôler, ça vient, et c'est sagesse de savoir ça. Et c'est aussi sagesse de savoir qu'en mettant un peu d'espace là, en mettant dans la contemplation, je peux m'arrêter. Parce que c'est là que ce qui émerge, c'est soit la cause de la souffrance, tanha, je saisis cette expérience, je la fais mienne, et tout le drame qui en découle si c'est une expérience négative, et tout l'attachement qui en découle si c'est une expérience positive, ou je vois. Et là, je peux choisir quelles sont les constructions qui vont... En tout cas, je peux déjà voir quelles constructions émergent, et du moment où je les vois, j'ai beaucoup plus de choix. Et pourquoi est-ce que le Bouddha parle de ces agrégats comme étant une cause, une souffrance? C'est parce qu'en créant un moi, nous nous séparons du tout. Ce qui crée ce trou de l'abandon, c'est cette création d'un moi qui n'est plus tout. Il n'est rien que moi. Et c'est douloureux, ça crée un sentiment de manque parce que nous avons quitté cette matrice originelle. Et alors ce qui vient, c'est « mais aime-moi, aime-moi, je n'ai pas aimé. » Et lorsque nous saisissons ce moi, eh bien, il y a un oubli de la pleine conscience. Et du coup, un oubli de notre appartenance. C'est douloureux. Donc on pourrait dire que l'éveil, c'est ne pas oublier que nous sommes aimés. Et avoir des outils pour s'aimer soi-même. C'est Wellwood qui dit « Toute peine a ses racines dans une vieille blessure de n'avoir pas été pleinement aimée, et une vieille frustration de n'avoir pas été capable de faire quoi que ce soit à ce sujet. Une fois établie, cette blessure et frustration restent comme un virus caché qui sommeille dans notre système nerveux, prêt à surgir au moment où quelqu'un agit de la mauvaise manière. C'est ce qui déclenche toutes les poussées émotionnelles qui affligent nos relations. Il y a ces trois aspects, la peine physique et psychique qui est liée à la peur de perdre ce que nous aimons ou ceux que nous aimons, et la souffrance d'être avec ce que nous n'aimons pas ou ceux que nous n'aimons pas. Et toujours il y a cette peur de souffrir et ce désir de bonheur. Et alors, les réponses. La réponse ordinaire, nous la connaissons bien, nous avons des stratégies. Il y a le frigo, il y a le téléphone, il y a la télé. Je ne sais pas ce que vous avez d'autre, hein. On a des stratégies qui sont tout à fait utiles. Mais c'est un emplâtre sur une jambe de bois, parce que de toute façon, nous devrons mourir. Nous n'allons à un moment donné pas pouvoir compenser le manque qui est là. Nous allons devoir l'accepter. Nous allons devoir lâcher. Donc, lorsque nous cherchons ces réponses ordinaires, la peine revient. C'est pas parce que j'ai bravement été regarder un film à la télé parce que c'était terrible mon état le soir que le lendemain j'ai plus le même état. Ça ne passe pas comme ça. Et lorsque nous passons notre temps à faire des vacances, à faire des rencontres avec les copains, à un moment donné, nous devons quand même faire face à ce manque, ce vide. D'un moi qui se cherche et qui ne s'est pas encore trouvé. Alors, ce qui est intéressant, c'est les réponses qui nous donnent une libération. Il y a des réponses à la souffrance qui nous libèrent. Et ces réponses, elles sont d'abord dans la manière de cultiver l'esprit, se souvenir de la pleine conscience, lui offrir du temps, être dans la détermination parfois, parfois dans la patience, cultiver notre attitude, l'attitude d'équanimité, de non-préférence. L'équanimité a une portée très très large, parce que lorsque je peux voir et ne pas saisir, je vois et je lâche. Ça lâche, ça émerge, mais ça lâche. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ce court-circuit dans le mouvement de la vie. Et alors, cette manière de pouvoir répondre sans préférence à ce qui émerge et passe permet un sentiment de plénitude. Je vous lis une parole de Sharon Salzberg que j'aime bien parce qu'elle dit... C'est impossible de tout saisir, mais il n'y a pas de problème, vous pourrez tout lâcher. Pour avoir un calme radieux et un équilibre inébranlable, il faut être comme la terre. Toutes sortes de choses sont jetées sur la terre. Des choses belles et extraordinaires, des choses moches, effrayantes, charmantes, communes ou rares. La terre reçoit tout ça. et elle conserve tranquillement sa propre intégrité. C'est un état de paix que d'être capable d'accepter les choses telles qu'elles sont vraiment. Ceci doit devenir familier dans nos propres vies. De tout recevoir, c'est beaucoup trop grand pour que nous puissions le garder, mais c'est la taille parfaite pour le lâcher prise. Nos cœurs et nos esprits ne peuvent pas devenir aussi grands, mais nous pouvons vraiment tout lâcher. Et puis, j'aimerais parler un peu de la compassion, qui est vraiment la réponse à la souffrance, l'ouverture du cœur. Savoir être sensible à l'expérience telle qu'elle est. Ne pas se contracter, ne pas fuir, ne pas prétendre, ne pas mettre sous le paillasson, ne pas dramatiser, juste prendre comme c'est là. Et il y a différentes couleurs à la compassion. La première, c'est ce qui est ouvert, chaleureux, qui console, qui des bras qui entourent, comme une bonne maman qui reçoit un enfant qui a mal. Et ça guérit, il n'y a rien besoin de faire de plus que d'accueillir l'expérience douloureuse de cette manière. Il y a cette jolie petite histoire d'un enfant qui va toujours au parc avec ses parents, puis il y a un vieux monsieur qui vient et qui a l'air tellement triste tout le temps. Et puis il passe, puis il va s'asseoir sur un banc, l'air complètement déprimé. Puis un jour, le petit garçon va vers lui et puis il s'assied vers lui. Et puis à un moment, il se met sur ses genoux. Et puis après, il y a le vieux monsieur qui part, puis il est tout radieux, tout content. Puis la maman demande à son petit garçon, « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Ce monsieur avait l'air tout content partout. Le petit garçon lui dit, « Rien, je me suis juste assis sur ses genoux et je l'ai laissé pleurer. » Donc nous pouvons faire des images de qualités qui nous entourent. Nous pouvons les faire pour nous, pour les autres, et de savoir aussi les recevoir lorsqu'elles viennent d'autrui. Quelquefois, c'est difficile de recevoir la compassion de l'autre. L'autre aspect, c'est cette inébranlable paix du cœur. La compassion n'est pas quelque chose de doudounet, vraiment mou un peu. Non, c'est quelque chose de puissant, d'ancré, stable, solide, comme une montagne qui peut recevoir la souffrance. La terre qui reçoit tout. Ne pas se laisser terrasser. Et pour ça, ça demande d'être prêt, de savoir qu'il y a des chocs dans la vie. En général, nous oublions l'impermanence. Et nous pouvons ressentir cette solidité en nous. Pas toujours, quelquefois ça devient tremblant, mais avec la pleine conscience, de plus en plus nous pouvons retrouver ce socle de comme si nous étions en même temps appartenant à la terre et au ciel. J'aurais peut-être déjà lu, mais je ne crois pas, peut-être pas. Si votre esprit devient ferme comme un rocher, elle ne tremble plus dans un monde où tout s'affole, je l'ai déjà lu, mais ça ne fait rien, bien de le entendre. Votre esprit sera votre ami le plus précieux et la souffrance ne viendra pas sur votre chemin, a dit le Bouddha. Et puis, un aspect de la compassion important, c'est la compassion en action. La compassion, c'est pas juste quelque chose que je ressens, c'est quelque chose que je pratique. Dans une retraite, nous le pratiquons si nous prenons l'autre en conscience et que nous sommes sensibles à sa peine, lorsque nous faisons le pardon. Et dans nos vies, nous nous engageons. C'est une réponse excellente à la souffrance. Plutôt qu'il y ait la pitié ou la peur, je m'engage. Nous pouvons nous engager concrètement. J'ai énormément de gratitude pour tous ceux qui donnent leur temps et leur énergie à concrètement aider le monde. L'abbé Pierre, à l'époque, Mère Teresa, Edmond Kaiser, qui disait, comment est-ce qu'il disait, c'était beau, hein. Un enfant sauvé de la misère, c'est plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. Un enfant, il n'y a pas besoin d'en prendre 36 000. Nous pouvons faire notre part avec les mendiants dans la rue, avec des petites choses où la compassion en action se manifeste. Notre générosité. Et puis, il y a la qualité de la compassion qui sait être légère. Nous avons une terrible tendance à faire des drames. Beaucoup de malchance arrive dans nos vies, la plupart ne sont jamais arrivées concrètement. Et lorsque quelque chose arrive, deux semaines après, ça nous paraît une petite chose, mais sur le moment, une amie qui est magnifique à ce niveau-là parce qu'elle rigole. Elle a une fille qui va mal, qui se drogue, qui fait vraiment des choses dures, elle est malade, son corps est dans un état. Et puis, oh, elle rigole. Elle a du cran, elle a du courage. Et il y a cette manière de ne pas prendre les choses dans le drame qui est très belle. Passer par-dessus et puis agir avec sagesse. C'est aussi une manière d'être dans le non-moi. Le moi crée vite des drames. Nous pouvons nous souvenir de qui nous sommes sur cette terre et dans le cosmos. Moi, ça me fait toujours beaucoup de bien de me dire que je ne suis pas indispensable. C'est terrible quand on se sent indispensable, tellement responsable, tellement... Tout le monde se débrouillerait très bien sans moi. Waouh. Est-il le Zoom qui dit « Oui, devenir simple et vivre simplement, pas seulement à l'intérieur de soi, mais aussi dans ses actes quotidiens. Ne pas faire de vagues autour de soi, ne pas essayer de paraître intéressant, garder ses distances. » une forme de sagesse qui implique de la disponibilité. Lorsque nous sommes trop préoccupés par moi, nous manquons de cette disponibilité de compassion. Ah mince, j'ai pas mis ce truc ou bien? Ah oui, excusez-moi. Donc la compassion, c'est aussi une compréhension du mystère de la souffrance humaine et un lâcher-prise de toujours vouloir savoir pourquoi. Et au lieu de chercher pourquoi, comment, se débattre, juste s'ouvrir à cette beauté des paroles de compassion, je suis sensible à ma peine. Je la respecte, disait Nicolas. Je reconnais mes limites, juste maintenant, ou celles de l'autre. Et je fais acte de connaissance. Si la réactivité émerge, ok, j'y crois pas. Mais je ne la rejette pas. Je la contemple. Et le cœur s'ouvre. Au lieu de se contracter devant la souffrance, il la voit, il la ressent, il l'apprivoise, la rencontre. Et bien sûr, c'est possible uniquement s'il n'y a pas d'identification, ou peu d'identification. Dans la méditation, dans l'exercice, se souvenir qu'il y a cette impermanence et quelquefois ça marche. Waouh, ça marche! Je me sens vraiment à ma place, je fais un bon travail, j'ai l'impression que j'ai trouvé mon chemin. Et puis tout d'un coup. Ah, c'est où? Ah, je suis sensible à ma peine. Plutôt que de dire oh, ça y est, j'ai tout perdu. Je suis sensible à ma peine. Juste maintenant, j'ai rien perdu du tout. L'expérience est différente et la compassion émerge. La compassion, elle est donc sensible, mais solide. Il y a la chaleur, mais il y a aussi l'espace et le vide. Il y a cette ouverture, mais il n'y a pas l'attachement. Et c'est notre expérience humaine partagée. Je suis sensible à ta peine. Waouh, qu'est-ce que l'autre peut souffrir? Je ne me laisse pas envahir par la souffrance de l'autre. Autrement, ce qui émerge, c'est l'inquiétude, la pitié, ou le rejet. Je crée un moi qui ne devrait pas être comme ça. Puis laissons-lui le droit d'être comme il est. Je suis sensible à ta peine. C'est tellement autre chose que de venir donner des conseils, vouloir. Je me le dis à moi-même. Hein. Venir avec cette croyance que le pauvre, je pourrais l'aider. Oui, je peux aider, mais en étant sensible à la peine de l'autre et en questionnant est-ce que tu as besoin de quelque chose, c'est différent. Sensible à la peine du monde, Dieu sait si on peut être sensible à la peine du monde aujourd'hui parce que ça devient tellement visible. Avant, il y avait la même, mais ça se voyait moins. Là, l'autre nuit, tout d'un coup, ce qui m'est venu, je me suis réveillée, puis ce qui m'est venu, ma voisine du haut, elle a laissé la pancarte « Oui aux multinationales responsables ». Puis je me suis dit « Non, mais c'est pas vrai, on a voté « Non aux multinationales responsables ». Et ça m'a mis dans un état de tristesse. Ah ! Tout d'un coup, j'ai réalisé le niveau de conscience de l'humanité. Je l'ai aussi réalisé avec Trump aux États-Unis. Tout d'un coup, ça m'envahissait. J'étais vraiment triste. Et alors, ce qui est venu, c'était chaud. J'habite en France. On a envie de fuir, comme c'est douloureux, on a envie de fuir. Parce que la souffrance, elle crée ces émotions et puis cette confusion mentale. Donc la réponse à la souffrance, c'est cette attitude sage et sensible et cette force de la pleine conscience. Et avec ça, nous cheminons bravement sur le chemin étonnant de la vie. D'une certaine manière, nous sommes toujours présents. Toute pensée ne peut émerger que dans le présent. Elle construit des mondes dans le futur, des regrets monstrueux dans le passé, mais toujours est-il qu'elle se passe maintenant. Et nous sommes toujours présents. Seulement nous ne le savons pas. Donc c'est ça que nous développons. Ce souvenir, je suis là. Et là, nous nous rendons compte, lorsque nous développons cette pleine conscience, que oui, il y a la peine. Elle est toujours beaucoup plus puissante lorsque c'est la mienne que lorsque c'est celle de l'autre, étonnamment. Mais la souffrance, c'est optionnel. Faites l'expérience. Si je dis je suis sensible à ma peine, et que j'en reste là, que j'explore ça, c'est bon. C'est bon, ça fait du bien. Ça n'enlève pas la peine, mais ça fait du bien. Et si je réagis, que je la prends personnellement, que je veux partir en France, c'est compliqué, ça devient compliqué. Il faut déménager. C'est Étienne Zoom qui dit « Les pires souffrances de l'homme sont celles qu'il redoute. » Car le grand obstacle, c'est toujours la représentation et non la réalité. La réalité, on la prend en charge avec toute la souffrance, toutes les difficultés qui s'y rattachent. On la prend en charge, on la hisse sur ses épaules, et c'est en la portant qu'on accroît son endurance. Mais la représentation de la souffrance, il faut la briser. En brisant ces représentations qui emprisonnent la vie derrière leur grille, on devient capable de supporter la souffrance réelle dans sa propre vie. N'allons pas, une fois pour toutes, en avoir fini avec la souffrance. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de toujours recommencer, d'être prêt à recommencer. Il y a cette petite histoire d'Ajahn Chah qui avait un novice qui était dans son monastère et puis au bout d'un mois, il est allé vers Ajahn Chah puis il lui a dit « C'est trop dur pour moi, moi je m'en vais. » Puis Ajahn Chah lui a dit « Non !» Bon, alors il est retourné, quoi. Puis au bout de 3 mois, il est allé vers Ajahn Chah puis il lui a dit « Bon, alors maintenant, c'est bon, alors j'ai fait 4 mois, alors cette fois je m'en vais. » Puis Ajahn Chah lui a dit « Non !» Puis l'histoire finit. Au bout de sa vie, c'était un moine heureux. Donc, il s'agit de recommencer. Et quelquefois, eh ben voilà, c'est le même démon qui arrive de nouveau. Puis il faut de nouveau que je sois sensible. Oh. J'ai déjà été sensible plusieurs fois. Eh oui, c'est pas moi qui décide. Ça revient. Donc humblement, je recommence. Et si j'accepte que après l'automne, il y a toujours l'hiver, qu'après l'hiver, il y a toujours le printemps, qu'après le printemps, il y a toujours l'été, et que si tout à coup ça s'arrêtait, oh, ce serait peut-être pas génial. Je peux faire pareil à l'intérieur, je recommence. Je vais finir avec une très belle parole de ces mères qui ont perdu leurs enfants pendant la dictature. Je ne sais jamais si c'est en Argentine ou au Chili.
Argentine.
C'est Argentine. Où en Argentine?
C'est Blas Demi.
Hein?
C'est Buenos Aires.
Qui c'est qui cause là? Je vois que c'est qui cause. Enfin, où est-ce que c'est? J'écoute.
Argentine.
En Argentine. Ouais. La place de Mai, je crois, ça s'appelle. Ouais. Si tu es là et que la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas couler au fil de l'eau. Recommence. Si la vie te semble absurde, si tu es déçu par trop de choses et de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi, recommence. Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu ta pauvreté et tes limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite, recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus de toi, irrités, ne te révolte pas, ne leur demande rien, recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver. Le rameau fleurit sans demander pourquoi. L'oiseau fait son nid sans songer à l'automne. Car la vie est espérance et recommencement.